Mesdames et messieurs, chers collègues et amis, il est un grand honneur et plaisir pour moi de présenter quelques de mes idées à un lieu si renommé et à un auditoire si illustre et savant. Je remercie John Scheidt et le professeur du collège très profondément pour cette possibilité. Malheureusement, mes reconnaissances de la langue de la culture européenne ne m'offre pas la possibilité d'exprimer ma gratitude et ma reconnaissance au degré souhait. J'ai même mes doutes si elles sont à l'auteur de ma tâche de discuter les différences dans l'unité, c'est-à-dire les traits communs et les adaptations spécifiques du gouvernement provincial romain dans un empire avec tant de particularités dans l'espace et dans le temps. En 1966, un jeune chercheur anglais publia son deuxième livre en allemand et pas en anglais. Le titre de l'ouvrage était « Das Römische Reich und seine Nachbarn, l'Empire romain et ses voisins ». Le livre était le premier essai d'une histoire de Provence, leurs différences et leurs caractéristiques communes d'après le tome 5 de l'histoire romaine de Theodor Mommsen. 11 ans plus tard, le nom du jeune Fellow of the Queen's College fut très connu en raison d'un autre livre, intitulé « The Emperor in the Rome World ». Mais même si « The Emperor in the Rome World » est l'opus le plus célèbre et le plus influent de Fergus Miller, l'ouvrage « Das Römische Reich und seine Nachbarn » est également un témoignage d'une née fin pour le développement de la recherche dans le sens de l'Antiquité. Et l'image que Fergus Miller a tracée du gouvernement romain dans « Das Römische Reich und seine Nachbarn » comme dans « The Emperor in the Rome World » est devenue la dominante pour les prochaines décennies, au moins dans le cas de la plupart des historiens anglophones et allemands. Gouverner l'Empire romain et ses provinces était toute une autre chose qu'administrer dans notre temps. Le gouvernement romain était composé d'un petit nombre de personnes sans connaissances spécifiques et n'avait jamais aucun caractère bureaucratique. Gouverner était réagir et pas agir. Plus généralement, dans les presque 50 ans qui suivent l'apparition de l'ouvrage « Das Römische Reich und seine Nachbarn », l'histoire individuelle de Provence, mais également celle des caractéristiques communes du gouvernement romain, sont devenues des thèmes importants dans les études antiques. Il y a plusieurs raisons pour ce développement. Pendant les années 60, 70 et 80, c'est-à-dire pendant la grande période de l'histoire sociale, de nombreux doctorants s'occupèrent des fastes, des listes de gouverneurs d'une province spécifique ou d'un groupe de provinces. Avec le nombre croissant de ces fastes, la question devenait toujours plus pressante en ce qui concerne ce que ces travaux et les sources rassemblées dans leur contexte révélaient sur les provinces qui étaient administrées par ces gouverneurs. Il y eut une transition en douceur vers les recherches des deux dernières décennies qui s'occupaient des structures du gouvernement romain dans les provinces ou dans un groupe de provinces, c'est-à-dire soit les structures de la juridiction ou soit les relations entre les représentants du pouvoir romain et les cités des provinces et leurs habitants. L'explosion du nombre d'explorations archéologiques après la Deuxième Guerre mondiale nécessitait des études rassemblant leurs résultats sous des perspectives communes à nombre de celles-ci. Pour une archéologie qui se conçoit comme science historique, choisir le nouveau supralocal le plus important, c'est-à-dire celui d'une province ou d'un groupe de provinces avec des caractéristiques comparables, était facile à concevoir. Deux séries de publications. La série « History of the Provinces of the Roman Empire » de la maison d'édition Routledge and King Paul et la série « Orbis Provinciarum » de la maison d'édition Zabern ont voulu de publier une monographie pour chaque province. Routledge and Kegan Paul furent beaucoup plus ambitieuses que Zabern deux décennies plus tard. Dans la série anglaise, trois monographies très compréhensives et détaillées ont été publiées traitant de tous les aspects de l'histoire et de l'archéologie de la Provence en question. L'histoire politique et militaire, comme les structures ethniques, sociales et économiques et les phénomènes religieux. Le volume de Geza Alföldi, qui traite du Noricum, est probablement le mieux réussi. Depuis le début, le comité des éditeurs de Zabern a offert aux auteurs moins de place et moins de possibilités de traiter de leur sujet d'une façon scientifique, et cette tendance s'est accrue pendant les années. Le volume le plus brillant sous ces conditions est probablement celui de Christian Marek, qui étudie la Provincia Pontus et Bithynia. Les deux essais ont échoué avant même que la plupart des provinces aient été traitées dans leur contexte, la plus ancienne après seulement trois volumes. Apparemment, trouver un public pour une telle entreprise n'était pas facile, tout comme recruter des auteurs qui étaient de taille avec leurs tâches et finissant leurs travaux dans le temps. Mais plusieurs volumes qui étaient commencés dans une de ces deux séries ont été publiés en dehors de ce contexte. De plus, un certain nombre d'études conçues d'une façon totalement indépendante offrent des vues d'ensemble détaillées et pertinentes sur les régions traitées, comme le livre de Maurice Sartre sur le Levant antique d'Alexandre à Cénobie, celui de Christian Marek sur l'Asie mineure, ou celui de Patrick Leroux sur les Provence hispaniques. Une tentative visant à aborder l'histoire de Provence a également été faite dans le monumental Aufstieg und Niedergang der römischen Welt. Mais les articles de plus de dix volumes offrent pour la plupart seulement l'histoire politico-militaire de leur province aux lecteurs. Une certaine compensation en ce qui concerne l'histoire économique des provinces européennes fut conçue dans les mêmes années 70 sous la direction de Friedrich Fittinghoff comme le premier volume du Handbuch der europäischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte et publié en 1990. Finalement, l'histoire religieuse d'un petit nombre de provinces est traitée dans les dernières années dans le cadre de la série Religion der römischen Provinzen. La rédaction et l'édition d'un volume qui rassemble des études traitant de toutes les provinces de l'Empire ont été faites seulement une fois après Fergus Miller. Le deuxième volume de la publication de François Jacques, Claude Lepelet et Jean Scheidt, Rome et l'intégration de l'Empire. Une série de quatre conférences ne peut pas rivaliser avec des livres. Elle peut seulement discuter des exemples très significatifs ou particulièrement méconnus. Par leurs moyens, je voudrais démontrer de quelle façon les différentes sources publiées dans les dernières décennies ont augmenté et réorienté nos idées des provinces romaines et du gouvernement romain dans ces provinces. J'ai choisi quatre exemples qui montrent clairement, à mon avis, le progrès de nos connaissances sous des aspects divers. D'abord, la Provence germanique. Des fouilles archéologiques, mais également des trouvailles épigraphiques, heureuses, ont aidé à surmonter un certain impasse dans le cas de ces provinces qui ne sont pas documentées par un grand nombre de sources littéraires. Cela ne vaut pas seulement pour le début des deux provinces et la question tant de fois discutée de l'existence d'une Provincia Germania, mais également pour le IIIe siècle avancé, une période particulièrement mal documentée dans tout l'Empire. De plus, elles offrent des informations pour la réalité quotidienne d'un gouverneur, c'est-à-dire des questions pour lesquelles on attend des réponses seulement de l'Égypte, en raison de sa documentation exceptionnelle provenant des papyrus. L'image qui résulte de ces informations est celle d'un gouvernement beaucoup moins primitiviste que celles qui étaient dominantes dans les années 60 et en particulier chez Fergus Miller. Le deuxième exemple sera la Macédoine, une des plus vieilles provinces romaines et la première constituée dans la partie orientale de l'Empire. C'est l'épigraphie en particulier qui nous informe sur la manière dont le pouvoir romain s'est installé et développé dans une province qui seulement fut conçue après 40 ans de tentatives de contrôle sur une région sans y installer un représentant du pouvoir romain et de formation romaine. La Macédoine est également une province qui a changé ses limites comme presque aucune autre, et cela en raison des demandes politiques et militaires très différentes. Finalement, c'est une province qui était particulièrement marquée par la colonisation romaine. La troisième conférence sera dédiée à deux provinces d'Asie mineure qui ont été mises en lumière par des trouvailles épigraphiques dans les dernières décennies d'une façon particulière, mais pour différentes périodes de leur existence. Dans le cas de la provincia Lucia, on apprend comment le premier gouverneur organisait une province dans une région particulièrement développée de l'Empire, c'est-à-dire sous des conditions très différentes de celles de Germanie. En ce qui concerne la provincia Lucia, d'un côté, on laissait les institutions locales agir d'une façon indépendante, même dans un domaine aussi central que les impôts pour Rome. De l'autre côté, on trouve un grand même nombre des interventions des gouverneurs romains dans des domaines si différents qu'on peut parler d'une vraie politique de développement. Dans le cas de la provincia Pontus et Bithynia au IIIe siècle, une source exceptionnelle, une série de 21 points avec des légendes particulièrement riches, nous donne des informations uniques sur le gouverneur d'une province pendant cette période, sur l'institution du curatore publicae, mais également sur les idées de l'empereur Dèce. À la fin, on discutera une province avec une documentation spécifique, l'Égypte. Beaucoup de chercheurs ont cru, et plusieurs le croient encore, que non seulement la documentation est spécifique, mais que la province et ses structures ont été très, très particulières. Cette question sera été discutée par un sujet central du gouvernement romain, la juridiction. J'ose espérer qu'à la fin de ce passage par l'Empire de l'Ouest à l'Est et du temps d'Auguste jusqu'au milieu du IIIe siècle, vous ne connaîtrez pas seulement certaines des plus importantes trouvailles des dernières décennies, mais que vous aurez également une idée de l'importance de ces sources récemment publiées ou discutées sur nos connaissances de l'Empire romain en général. Les aspects qui intéressent en particulier sont les questions à savoir dans quelle mesure cet empire est arrangé parmi les empires prémodernes, selon des aspects comme l'utilisation de l'écriture, le caractère de l'administration, les idées sur les objets de la politique de l'empereur et de ses représentants. Les régions au bord du Rhin étaient les dernières étapes d'un grand processus de l'expansion de l'Empire romain, caractérisé pour l'époque d'Auguste. Ces deux derniers avaient eu plusieurs raisons pour cette expansion. Certaines menaces extérieures devaient être éliminées. Dans certaines régions, la situation était prête à former ou grandir une province depuis des décennies, etc. Mais les raisons le plus important pour Auguste était sans aucun doute de gagner du prestige militaire par lui-même et pour ses successeurs présomptifs, ainsi que justifier le pouvoir reçu en 27 avant Jésus-Christ et prolongé dans les étapes régulières. Particulièrement le haut commandement, d'abord sur la plus grande part de l'armée romaine et à la fin de sa vie sur la totalité de cette armée, devait être justifié. De cette façon, lui ou ses successeurs avaient d'abord conquis le reste de la péninsule ibérique et après les Alpes, l'Illyricum, jusqu'au Danube et la Germanie. La question fut longtemps discutée, à savoir si avant l'insurrection de Arminius, dans les yeux des autorités romaines, la conquête était considérée comme réussie, c'est-à-dire si une provincia germanica avait été créée. Le sloth littéraire était si maigre et leur représentant si déformé par les événements suivants que le doute restait chez la plupart des chercheurs. Dans cette question si contestée, l'archéologie a changé la vue scientifique. Cela vaut moins pour le fouiller par Vernazzania et autres collègues des installations militaires, même si elles permettent aujourd'hui de reconstituer les routes de marche des troupes sous le commandement de Druse et Tibère beaucoup mieux qu'autrefois. Le résultat des fouilles à Lanau-Waldgürmes chez Gießen par Sigmar von Schnurbein, Gabriel Rasbach et Armin Becker depuis 1993 était toutefois plus important et étonnant. Là, on a fouillé une petite ville à caractère civil de 7,7 hectares qui existait entre 6 avant Jésus-Christ et 9 après Jésus-Christ. Rien parmi les trouvailles ne laisse penser à la présence de soldats autre que dans le contexte d'un passage. Au contraire, la ville est dominée par un grand forum avec 5 bases pour 5 statues. Comme les restes d'une statue équestre de bronze le montrent, on trouve ici même déjà des exemples de l'habitude méditerranéenne d'honorer les personnes les plus importantes par des statues. Apparemment, la ville était conçue comme centre administratif d'un territoire d'une tribu germanique ou celtique. Jusqu'à ces fouilles, aucune trouvaille archéologique n'avait démontré d'une façon si évidente comment la conquête d'un territoire en dehors des limites de l'Empire implique une politique de construction des villes civiles. Les fouilles ont démontré que la conquête d'une province au temps d'Auguste et, a fortiori, sous ses successeurs, implique une politique de sédentarisation et d'acculturation envers la population civile beaucoup plus riche et attendue que les historiens n'avaient pensé avant ces fouilles. Dans le futur, on ne peut plus coulisser sur le côté des remarques comme celle de Dio que des villes étaient construites dans la Germanie, Polis in Eukitzentor, et que les Germani commençaient à se réunir dans le contexte purement pacifique, Synodus te Herenices Epoiuntu, où les remarques de Tacite sur l'effort de Agricola a incité la population de la Provincia Britannia, nouvellement soumise par l'aide financière et technique romaine, à construire des temples, des forats et des maisons. Varus n'était pas l'idiot que l'historiographie en a fait après la catastrophe du Saltus Teutoburgiensis. Comme d'autres commandants des armées d'expansion, il était membre de la famille d'Auguste. Avait des expériences militaires comme légat d'une légion, une trouvaille des dernières années l'a démontré, était un diplomate habile comme les sources utilisées par Flavius Josephus le montrent. Ces sources, qui furent produites avant les événements de l'an 9, montrent un gouverneur de la Syrie qui défend les intérêts de Rome avec fierté, mais également à vue d'œil, et qui ne se laisse pas prendre dans les querelles entre Hérode et sa famille. Apparemment, les représentants du pouvoir romain et de son premier empereur s'occupaient plus que l'on a pensé à ce que la population civile s'adapte à la mode méditerranéenne de vivre et soutenait ses efforts avec de l'aide technique et financière. En plus, ils étaient aussi plus occupés à exploiter les possibilités économiques des régions soumises comme Moses Finlay et les primitivistes le pensaient. L'exemple le plus impressionnant était des lingots de plomb qui furent trouvés il y a quelques années dans deux épaves, une à Sainte-Marie de la Mer et une à Reina Maiore en Sardaigne. Leurs inscriptions se réfèrent au Plumbum Germanicum, plombe de Germanie, ou au Germanicum, et nomment Auguste comme propriétaire avec des formules telles que Imperatoris Caesaris ou Augusti Caesaris. L'analyse isotopique de ces lingots et des autres lingots, en trouvés à Brilon, dans son site minier du Sauerland, et en autres conservés au musée de Soest, a montré que trois des quatre lingots du plomb proviennent des mines du Sauerland et la quatrième du Lüderich dans le Bergisches Land. Les mines du Sauerland étaient à plus de 130 km à l'est du bord du Rhin et à plus de 150 km du centre du pouvoir romain dans la région, la future Cologne. Comme dans le cas des autres revenus de l'État romain et de son prince, le mode d'exploitation était le fermage, comme la mention des Soukii dans le cas d'un lingot provenant d'une épave au large de Fos-sur-Mer le montre. La cargaison de cette épave suggère que le lingot date de la seconde moitié du 1er siècle. Que cette exploitation des ressources ait été lucrative est illustrée par deux inscriptions de Cologne. Ces inscriptions funéraires se réfèrent à deux membres de la soi-disant Familia Caesaris, un caissier d'Auguste et de Tibère, Divi Augusti et Tiberii Caesaris dispensator, et un Libertus de Livia nommé Vedianus, c'est-à-dire provenant de l'héritage de Vedius Pollio. Deux éléments sont importants dans notre contexte. Dans le cas de la tombe monumentale du dispensata, ce sont ses dimensions. Elle a un diamètre de 5,5 mètres, c'est-à-dire la moitié du Eichelstein, le monument à Mayence considéré comme celui de Drouze. Apparemment, ce dispensator, cet esclave du prince, a eu un grand peculium, une grande propriété, gagné dans le contexte de son activité, probablement pour le Fiscus Caesaris. Dans le cas de la deuxième inscription, il est important de signaler que ce Libertus a été libéré par Livia. Bien sûr, nous ne savons pas la fonction qu'il a exercée. Il put être un expert pour une tâche domestique ou personnelle, un médecin par exemple, qui eut été envoyé par Livia à Germanicus et à Agrippina. Mais il put également être un Libertus qui s'occupait des intérêts financiers de Livia, ayant par exemple la fonction de Villicus. Cela est un autre résultat des documents récemment publiés. On a longtemps su qu'après la conquête de l'Égypte, Auguste a donné un grand nombre de usiae, c'est-à-dire de grands domaines, à ses parents et ses amis. Un nombre de papyrus se réfère à ces domaines nommés d'après leurs propriétaires comme Marcus Agrippa ou Livia. Mais ce n'est pas seulement dans le cas d'un territoire bien organisé et exploité déjà avant la conquête romaine comme l'Égypte que Auguste a agi d'une telle fonction. Aujourd'hui, on peut également montrer pour des provinces beaucoup moins développées que Auguste a fait cadeau de grands saltus à ses proches et à ses collaborateurs les plus importants. Dans le Senatus Consultum de Gneo Pisone, on mentionne un saltus situé en Illyricum qui a été donné en récompense, donatus erat, à Gneus Pisone Pater par le divin Auguste. Sur le marché antiquaire était offert il y a quelques mois un ligot de plomb provenant d'après ses caractéristiques de la Serbie. Sur le lingot, on trouve dans une table à Ansata l'inscription Metallo Messalini. Apparemment, ce lingot provient d'une mine en la possession d'un certain Messalinus. Le nom est si rare qu'on peut l'identifier avec grande certitude avec Marcus Valerius Messala Messalinus, marié à une nièce d'Auguste et gouverneur d'Illyricum en 6 après Jésus-Christ. Quand il est parti avec la plupart des troupes de sa province pour attaquer le règne de Marbot sous le commandement de Tibère, la grande révolte illyrienne a éclaté. c'est un compagnon de Varus. Et peut-être Varus va recevoir des Exaltus en Germanie, si il n'est pas perdu. Mais ce ne sont que les débuts des deux provinces germaniques qui sont mis dans une nouvelle lumière par des trouvailles récentes. La même chose vaut pour la réalité quotidienne pendant les siècles suivants. Aujourd'hui, on est beaucoup mieux informé sur l'emport dans ces provinces et sur le marché des aliments à cause du rassemblement des titres pictiques de deux Germanies et de la récit et de leur publication par Ulrike Emig. La construction de nouvelles stations de métro à Cologne en particulier a apporté un grand nombre de titres pictiques. Aujourd'hui, Cologne est avec 326 titulis connus, la ville avec le plus grand nombre de ses inscriptions après Rome et les cités près du Vésuve. Ces titulis, provenant pour la plupart de la deuxième moitié du 1er siècle, nous montrent d'un autre côté les routes de l'emport longtemps connues de certains aliments. L'importation de l'huile de la Bética, des olives et du vin de la même région et du sud de la France, l'apport du garum de l'Espagne et de la provincia Narbonensis, le transport du vin de ces provinces, mais également des provinces dans l'est du monde méditerranéen et en particulier de Crète et de Rhodes. Mais on peut aujourd'hui également prouver qu'on a emporté dans des pots des matières colorantes de l'Italie, de pourpre, de canusium et de vert de gris. En plus, il est maintenant documenté que du garum pompeianum était apporté au bord du Rhin. Jusqu'à la publication de Ulrike Emig, la recherche était d'avis qu'il était destiné seulement au marché local italien. On détient également le premier témoignage montrant que des vins de Luna en Étrurie et des gènes dans la Liguria ont été bu dans la Colonia Claudia Ara Agrippinensium. C'est comme contacts commerciaux avec l'Italie, qu'on ne connaît pas des autres lieux de trouvailles de Titoli, sont peut-être une dernière conséquence de la présence des personnes les plus importantes de l'Empire dans les Germanies au début de notre ère. Mais on peut également considérer que ces contacts résultaient de l'origine des vétérans avec qui la colonia a été fondée en l'an 50. Mais ce titre-là n'offre pas seulement de nouveaux horizons en ce qui concerne le monde économique. En 1993, Jérôme France a souligné que nous ne savons rien des portoria municipaux, des octrois locaux, perçus par des cités en ce qui concerne la partie occidentale de l'Empire, sauf Massilia. Mais sur un titre nouvellement trouvé à Cologne, on lit « Domestici usuarii ». Certes, « usuarium » a des significations différentes, mais en combinaison avec une inscription de Rome, CIL 6, numéro 8594, Quidquid usuarium vehitur, ansarium non debitur. L'interprétation la plus vraisemblable est que le contenu du pot ou de l'amphore était libre du ansarium, d'un octroi pour des marchandises entredites dans une cité, parce que le contenu était seulement destiné pour l'usage privé, individuel et quotidien. À Mayence et à Augsbourg, des observations similaires furent possibles. Le contact personnel fut sans aucun doute décisif lorsque Publius Calvisius Sabinus Pomponius Secundus, Legatus Augusti Exercitius Germaniae Superioris et un fameux connaisseur, a laissé apporter sa garum scombri de la Bética à Mayence. La notation explicite flos sur la cruche d'amphore montre qu'il était d'une qualité exceptionnelle. Dans le cas d'un autre gouverneur, Saturius Secundus, procurator rétié, dans les années 77 jusqu'à 80, après Jésus-Christ, on a même pu mettre la main sur deux étapes de sa cargaison. Une amphore, lui, était en destinée et marquée comme celle de Calvisius Sabinus, Pomponius Secundus, avec Garum Scombri, Flos, Anorum Duorum, a été trouvée à Arles, où le produit était transbordé de bateaux provenant de la Bétique dans des bateaux fluviaux pour être transporté par le lac Léman et le va terrestre à Augsbourg. On a trouvé deux exemples. Dans le cas de la récit, un tel titulus offre encore une fois des renseignements sur un sujet longtemps discuté sans résultat en raison de manque de sources. On connaît dans le cas de cette province, pour tout le premier siècle, aucune inscription qui ne provienne pas d'une installation militaire et qui se réfère à un gouverneur ou des officiales présidis. En raison de cette manque de sources, la question du lieu où le gouverneur de cette province s'est installé, c'est-à-dire la cité qui était la capitale de la Récie, est controversée et sujette à discussion depuis longtemps. Certains ont voté pour Augsbourg, où on connaît des témoignages des gouverneurs et des officiales pour le IIe et IIIe siècle, et qui était le caput vie Claudiae Augustae, c'est-à-dire de la route en provenance d'Italie. D'autres penchent pour Cambodunum, dans le cas duquel on connaît plus de monuments archéologiques du 1er siècle. Dans cette controverse, les amphores de Saturius Secundus laissent le plateau de la Balance s'affaisser de manière finale et décisive vers Augsbourg. Encore une fois, il se confirme que même s'il n'y a apparemment pas de décision officielle sur la question, à savoir quelle cité d'une province assumait la fonction d'une capitale, il y a normalement une grande continuité en ce qui concerne le lieu où le gouverneur de province romain passait l'hiver, où les officiales avaient été logés et où les archives du gouverneur étaient installées. Dans une couche gouvernante qui estime le mos maiorum à un tel degré, ça n'étonne pas du tout. L'activité et les lieux de résidence d'un gouverneur sont également éclairés d'une façon particulière par un témoignage longtemps discuté de façon trop superficielle. En 1964, Hans Klumbach a publié deux fragments d'un plat de type Hofheim 129, une sorte de terra nigra produite entre l'époque julio-claudienne et le milieu du IIIe siècle. Ces fragments, trouvés dans un puits à Mayence, transmettent les trois dernières lignes d'une inscription plus longue, dont l'état original devait avoir au moins quatre lignes. Le texte fut écrit avec un stylus avant que le plat ne fût cuit. Il va comme suit. Denuntiavi Tito Elvisio Secundo, ou denuntiavit Elvisio Secundo, uti atsit mugontiaci ante praetorium publici Marcelli ad Hiberna legionis due et vicesime primigenia pie fidelis. Le texte a été utilisé dans la recherche scientifique seulement en fonction des informations sur le palais officiel du gouvernement romain de la Germanie supérieure. Les discussions ont porté sur l'emplacement du prétoire à l'extérieur du camp légionnaire, ainsi que sur l'appellation du prétoire selon un gouverneur du début des années 20 du IIe siècle. Une question qui a été à peine abordée est celle de la fonction de cette notice. Klumbach a pensé qu'elle était une notice écrite par un envoyé d'un Praefectus Castrorum. D'après lui, ce Praefectus Castrorum voulait commander des plats et a été envoyé l'auteur du texte à l'étillier. Après la commande, l'envoyé avait écrit cette note pour informer le Praefectus de la date et du lieu où la livraison allait être remise. D'autres chercheurs ont souligné la fragilité d'une telle hypothèse. Ils ont proposé d'autres interprétations possibles, une apparition comme témoin par exemple. Mais on ne trouve pas une argumentation détaillée, précise et convaincante. Une telle explication doit donner du sens aux mots individuels et au texte global. Pour y arriver, il est utile de commencer par le premier mot « denuntiavi ». Denuntiare n'a pas seulement la signification parler d'une façon solennelle, souvent même menaçante, mais également citer en justice. Il existait même une procédure appelée litis denunciatio. Dans le cas d'une telle procédure, une partie citait l'autre en justice par une citation écrite de caractère privé, mais sur laquelle la cour en question était informée. D'après la plupart des historiens du droit, cette procédure était typique seulement pour le 4e et 5e siècle, c'est-à-dire l'Antiquité tardive. D'après ces auteurs, pendant le Haut Empire, la procédure normale était comme au temps de la République, le vadimonium, la promesse verbale, commune et réciproque des deux parties d'apparaître dans la cour de justice. Bien sûr, il connaissait un Senatus Consultum de 129 où il est mentionné qu'on pourrait être cité par écrit en justice. Denuntiatum esset eid aut litteris vel edicto. Mais il n'est pas dit de façon explicite que cela pourrait être appliqué par une personne privée et pas seulement par un magistrat. La soi-disant denunciatio ex autoritate. Bien sûr, on trouve chez l'auteur Aurelius Victor la notice que Antoninus Pius aurait aboli le vadimonia et aurait introduit d'autres procédures plus faciles pour citer quelqu'un en justice. Mais la recherche a argumenté que cela était une faute de l'auteur qui avait transféré un phénomène de 100 ans, c'est-à-dire de l'Antiquité d'Aphilippe, à l'époque d'Antoninus Pius. On connaît depuis longtemps des citations décrites d'Égypte, mais on les a poussées à côté avec les arguments, primo, que l'Égypte n'était pas une province comme les autres, et secondo, que le stratège, c'est-à-dire l'autorité officielle la plus haute du lieu, faisait partie de cette procédure. Le dernier argument ne convainc pas dans le cas de citations provenant de la provincia Arabia, est publié en 1989. Ces citations en justice étaient rédigées par la personne qui les utilisait, une certaine Babata. Pour valider ces citations, elle a toujours eu recours à des témoins. Bien sûr, ces citations sont en grec. Ce qui manque comme exemple, c'était des litis delationes rédigées en latin. Les documents qui proviennent des cités du Vésuve sont des vadimonia. Mais ces vadimonia de Pompéi et Herculaneum ne sont pas seulement des contrats verbaux, mais déjà des enregistrements écrits de tels contrats. En plus, ils contiennent l'information qu'on se promet d'être à une certaine date, à un certain lieu, décrit d'une façon bien détaillée. Par exemple, Puteolis, in foro, ante aram Augusti Hordonianum. Ou, Rome, in foro Augusto, ante aram Martis ultoris proxime gradus. C'est justement la même structure que dans le texte de Mayence. D'abord la cité, et après le lieu concret avec des détails précis. Et ces détails ont une fonction. Quand le citant décrit le lieu d'une manière si précise, il était assuré que son adversaire ne puisse pas s'excuser par le fait qu'il n'ait pas bien compris et qu'il soit allé à un autre lieu. Même le fait qu'on citait son adversaire devant le prétoire ou le tribunal au forum et non pas au prétoire avait sa fonction dans le système juridique romain. C'est une vieille idée de la pensée juridique romaine d'offrir aux deux adversaires la possibilité d'un accord à la dernière minute. Finalement, la mention du gouverneur dans le plat de Mayence est bien compréhensible. Il était le juge devant qui l'auteur du texte du plat voulait citer son adversaire. Pour résumer, le texte du plat de Mayence nous offre le premier exemple d'une litis denunciatio pour la partie ouest de l'Empire. Il confirme que la citation de Babata ne reflète pas une coutume locale, mais comme beaucoup d'autres éléments de ces documents, une pratique romaine. Il montre que la notice d'Aurelius Victor n'est pas un anachronisme, mais que Pius a confirmé en usage déjà courant. Dans les lignes qui sont perdues, on doit supposer la date pour laquelle on sommet devant le prétoire du gouverneur et la mention de la présence des témoins. Finalement, la cuisson a peut-être eu la fonction de sceller, c'est-à-dire de protéger le texte original contre un changement. Une confirmation de cette interprétation du plat est apportée par des trouvailles dans une tombe dans les environs de Sante, Mediolanum Santonum, jusqu'ici ignorée par les historiens du droit romain. Cette tombe fut construite après 172 après Jésus-Christ parce qu'on y a trouvé une pièce de monnaie de cette année. Dans cette tombe, deux défections, c'est-à-dire deux tablettes de plomb avec des formules des exécrations, ont été trouvées au XIXe siècle. Comme beaucoup d'autres défections, elles étaient probablement déposées dans une tombe déjà existante. Le texte est le suivant. Je ne cite pas les passages magiques. Denuncio personis infrascriptis Lentino et Taschilo uti adsint ad Plutonem. Commodo hic Catellus nemini nocuit, sic, nec illi hanc litem vincere possent. Quomodi nec mater huius Catelli defendere potuit, sic nec advocati eorum eos defendere non possint, sic illos inimicus, ad proserpinam hinc. C'est-à-dire, d'après la traduction de l'inscription latine de l'Aquitaine, je somme les personnes dont le nom suivent, Lentinus et Taschilus, de comparaître devant Pluton. De la même manière que ce petit chien n'a pas nuire à personne, que ainsi ces individus ne puissent âgés gagner ses procès. De la même manière que la mère de ces petits chiens n'a pu les défendre, que ainsi leurs avocats ne puissent les défendre, eux qui sont nos ennemis, et aussi devant Proserpine. Apparemment, l'auteur de ce texte a cité deux adversaires au tribunal du juge suprême d'enfer. Il ne les a pas sommés à un lieu près du tribunal, mais dans le tribunal même. La malédiction fut impitoyable. La possibilité d'un accord à la dernière minute n'était pas prévue. Le plat nous donne le premier exemple d'une litis denunciatio pour la partie occidentale de l'Empire. Il y avait probablement des millions de telles dénonciations dans le contexte des procès devant les gouverneurs de l'Empire, desquels rien ne reste parce qu'elles furent été écrites sur des matériaux non durables comme des tablettes de cire. Les défections, au contraire, étaient souvent écrites sur des tablettes de plomb. Pour cette raison, il n'est pas possible de contester que maudire ses adversaires lors d'un procès était une pratique courante dans tout l'Empire. On connaît même un exemple provenant de la Germanie supérieure, de Nida. Dans ce cas-là, l'auteur adjure le man d'en bas, afin que Marius Fronto, l'adversaire de Sextus, soit vain et ne puisse parler contre Sextus, afin que Fronto soit rendu muet dès qu'il se présentera devant le consularis, le gouverneur du rang consulaire, avant qu'il soit muet et qu'il ne puisse ni parler ni entreprendre quoi que ce soit. Un autre exemple, écrit sur trois tablettes, provient d'Emporie, en Espagne. Là, on a placé dans une tombe d'époque d'Auguste sous le Flavien trois tablettes avec des défections connectées. Toutes les autorités de la province, le gouverneur, son concilium, le legatus juridicus de la province et le procurateur ont été maudits, ainsi que des legati des deux civitates, le Holocitani et les Indicitani. Apparemment, c'était une affaire beaucoup plus importante que le procès de Mediolanum Pantonum. Certes, la mention de toutes les autorités de la province pourrait s'expliquer par le fait que le responsable de la malédiction ne savait pas qui allait décider de son affaire. Mais la mention de deux délégations de Civitatis implique de toute façon une querelle au-dessus du nouveau local. Tout un groupe de defectionis qui sont nés sans aucun doute dans le contexte du procès du gouverneur et connus de l'autre côté de la mer Méditerranée, de Courion à Chypre. Mais on n'usait pas seulement de la magie pour nuire à ses adversaires. Dans l'Arabie du IVe siècle après Jésus-Christ, un rhéteur avait cherché à devenir invincible dans un procès devant le dux, le commandant militaire, en inscrivant des formules magiques dans une lamelle d'or. User de la magie lors des procès dans la Provence était apparemment beaucoup plus commun que l'on ne le pense aujourd'hui. On ne doit pas surestimer la rationalité même du système juridique romain. Mais retournons encore une dernière fois aux deux provinces germaniques. Christian Witschel a dressé en 2011 un bilan très sceptique de nos connaissances du IIIe siècle avancé, c'est-à-dire de la période entre la mort de Sévère Alexandre et Dioclétien. L'archéologie, mais également l'épigraphie, ont révisé ces bilans au moins pour la première décennie de cette période. On savait, en raison des notices chez l'auteur Herodianus et dans l'Historia Augusta, que Maximinus Thrax a fait une campagne dans la Germania Libera après son usurpation. Mais le texte de l'Historia Augusta est corrompu et la méfiance envers ces deux historiographes connus pour leur manque de fiabilité est grande. Une nouvelle base pour l'interprétation historique a été acquise par des trouvailles fortuites de deux utilisateurs privés de sondes pour métaux. Ils ont trouvé dans les premières années de ce siècle, sur la face ouest du Harz, des objets qu'il tient pour médiévaux. Quand on a reconnu en 2008 que ces objets, par exemple une hipposandale, sont des pièces de l'armée en romain, une prospection systématique du terrain a commencé. L'année dernière, un premier bilan a été dressé par une exposition. On a sans aucun doute trouvé le site d'un combat entre les Romains et les Germains au IIIe siècle et vraisemblablement pendant la campagne de Maximinus Thrax. Une dolabra qui appartient à la Legio Quarta Severiana Alexandriana Flavia n'offre pas seulement un terminus postquem, mais également un certain terminus cuius. Pendant le repli, certaines guerrières germaniques ont essayé de bloquer le passage, mais étaient encerclées à leur position. Dans le contexte de nos questions, il n'est pas seulement important et étonnant que l'Empire romain ait été capable de telles offensives. En plus, la proportion avec laquelle cette formation utiliser des armes de distance mécanisées, même dans un combat de forêt, étonne. Apparemment, on a apporté les balistes pour des sièges ou des batailles sur des champs ouverts, mais on les a même utilisés sur ces terrains peu adaptés à cette méthode de combat. L'image d'une armée beaucoup plus sophistiquée et développée qu'on a pensé, même au milieu du IIIe siècle, se profile. Ce profil est confirmé par deux documents nouvellement connus. En 2006, un document d'un type nouveau, comme les éditeurs l'ont nommé, a été publié. Cette tabula de bronze confirme la honesta missio d'un soldat appartenant à la Legio Duodecimia Primigenia Pia Fidelis, la garnison de Mayence en 240. Il a été recruté sous Caracalla, c'est-à-dire entre 211 et 217. La durée du service des légionnaires étant de 25 ans pendant le Haut Empire, la question se pose s'il était recruté en 215. Peter Weiss et moi-même publierons dans un futur proche un document plus complet de la même nature. Il concerne également un soldat dans la Légion de la Germanie supérieure, la Legio Octava Augusta, la garnison de Strasbourg. Ce soldat a incontestablement été recruté en 215. Comment doit-on interpréter ces documents? Les tabulae honesti missionis en bronze sont, contrairement aux soi-disant diplômes militaires, très rares. Jusqu'en 2006, on connaissait seulement 5 documents de ce type, parmi ceux-ci seulement 1 pour un légionnaire. Contrairement aux dons du connubium et de la civitas romana aux auxiliaires, qui fut documenté par le don d'un diplôme de bronze gratuit à chaque vétéran, au moins pendant la période entre Claude et les guerres marcomannes, l'honesta mission n'était apparemment normalement pas le motif pour le don d'un diplôme. Les rares bronzes de honesta mission ont jusqu'ici toujours été expliqués par le souhait de certains individus d'avoir un document comme un diplôme militaire et payé par ces personnes. Maintenant, on connaît 2 documents provenant de la même année et de la même province, la Germanie supérieure, et en plus, 1 pour un auxiliaire de Pannonie supérieure en 240. 3 documents d'un type exceptionnel pour la même année ne pourraient pas être le résultat d'un hasard. Apparemment, au cours de cette année, on n'a pas seulement donné l'honesta missio aux soldats des légions de la Germanie supérieure et des formations auxiliaires de la Pannonie supérieure au temps prévu, on a également célébré cet événement par le don général d'une table de bronze à chaque vétéran. On devine la raison quand on lit chez Herodianus qu'aux côtés des opposants de Maximinus Thrax, lors du siège d'Aquilée au printemps de l'année 238, se trouvaient des troupes des Germains. La raison était que Marcus Claudius Pupienus Maximus, un des 2 empereurs de la partie sénatoriale, était très apprécié par les Germains. Comme l'auteur le dit, c'était l'effet de la sympathie déjà ancienne que ceux-ci avaient pour lui depuis le temps où il les avait gouvernés avec sollicitude. Le rôle important de ces soldats pour le succès des opposants de Maximinus Thrax avait des conséquences. Des soldats qui n'étaient pas à la fin de leur service militaire ont été recrutés pour la garde prétorienne. Cela est montré par une épitaphe d'un ex-centurio de la Legio Duodecima Primigenia. Mais les soldats qui étaient à la fin de leur service militaire ont reçu leur congé honorable après le retour de ces formations dans leur garnison. Mais on ne s'est pas limité à la procédure normale, on a plutôt opté pour une forme très solennelle avec une table de bronze. Cette reconstruction des événements peut servir comme base pour certaines conclusions. Un auteur mal estimé, Herodianus, est rétabli au moins à un certain degré. Jusqu'ici, on ne savait pas quelle province germanique était gouvernée par Pupienus. Maintenant, il est clair qu'il s'agissait du legatus Augusti Propretore Germania Superioris. Même si la base de Maximinus Thrax pour sa campagne contre les Germania Libera était Mayence, il n'avait apparemment pas réussi à gagner le cœur des légionnaires de cette province. Plusieurs raisons sont possibles. Il était peut-être décisif qu'au moment de son usurpation, il ne faisait pas partie des fonctionnaires de cette province, mais avait un commando sur le Tyrones. Peut-être la formation régulière de la province avait été trop longtemps réservée au nouvel empereur pour être remercié par lui pour le succès de son usurpation. Peut-être la campagne dans la Germanie Libera était trop difficile pour engendre de la sympathie envers le commandant en chef. Ou, et c'est à mon avis la plus probable, il n'a pas congédié les soldats à la fin de leur service afin d'avoir une armée plus nombreuse. De toute façon, la vieille loyauté envers Pupienus et les opposants de Maximinus Thrax ont vaincu contre des liaisons avec celui-ci. Les vainqueurs et survivants de 238 ont été remerciés par une honnête amicio accompagnée d'un document représentatif sur bronze. Qu'on puisse impressionner ces grognards du bord du Rhin par un tel acte est un exemple final pour l'importance de l'écriture et des inscriptions, même dans une province non romanisée depuis l'époque républicaine et menacée par des attaques en dehors de l'Empire. J'espère que j'ai pu démontrer par l'exemple des provinces germaniques à quel point les résultats archéologiques et les trouvailles épigraphiques ont contribué à enrichir notre connaissance de ces provinces du Nord-Est et de notre compréhension de l'Empire en général. Je vous remercie de votre attention.